Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés.
Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries.
Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de l'émission Histoire en série où nous recevons aujourd'hui Anthony Guyon. Bonjour Anthony.
Bonjour Nicolas.
Donc Anthony, vous êtes enseignant agrégé en lycée et à Sciences Po, vous êtes docteur en histoire et vous avez soutenu une thèse sur les tirailleurs sénégalais dans l'entre-deux-guerres. Vous avez rédigé aussi la partie de l'Atlas historique de l'Afrique dirigée par François-Xavier Fauvel et Isabelle Surin aux éditions Autrement qui est consacrée à l'Afrique durant la Grande Guerre. Vous êtes membre de l'équipe de rédaction de non-fiction et vous avez aussi réalisé des manuels de la spécialité aux éditions en histoire, donc géopolitique, aux éditions Attier. Donc c'est un petit peu à ce titre-là que je vous ai invité aujourd'hui pour parler d'une série où il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la géopolitique, c'est la série Narcos. Alors est-ce que, Narcos Mexico, est-ce que vous pourriez, Anthony, nous présenter tout d'abord cette série ?
Oui, merci beaucoup. Donc Narcos Mexico, en effet, c'est une série qui se prête assez bien à une analyse géopolitique. Donc si on reprend la série en elle-même, alors, au début, ça ne devait pas être une série, il était prévu que ce soit la saison 4 de Narcos. Narcos, donc les deux premières saisons, c'était focalisé sur le système Escobar, donc le cartel de Medellín, et la troisième saison sur le cartel de Cali. Et en fait, on en a fait un spin-off puisqu'on s'est rendu compte que le trafic de drogue mexicain se prêtait assez bien à une analyse un petit peu plus complète. On allait dépasser notamment le personnage de Joaquin Guzmán, El Chapo, qui est fascinant hein, pour tout le monde cinématographique, pour Netflix. Donc ici, on a décidé de se lancer sur une série complète qui a fait pour le moment deux saisons, qui marche relativement bien. Donc comme pour Narcos, hein, il s'agit d'un récit fictionnalisé, mais force est de constater la solidité de leur documentation. Ils nous donnent vraiment des détails assez précis sur le trafic de drogue mexicain dans les années 70 et 80.
Donc c'est une série qui se passe, donc, comme son nom l'indique, au Mexique. Donc il s'agit de suivre le cartel de Guadalajara.
C'est ça. Hein. Donc on se focalise sur un personnage. Il faut quand même un personnage assez solide pour pouvoir tenir deux saisons. Donc le personnage ici, c'est Miguel Ángel Félix Gallardo, qui fait rentrer le trafic de drogue mexicain dans un subtil jeu d'acteurs et d'échelle dans les années 70-80. Alors c'est vrai que la série... Hein, deux saisons, donc elle suit le schéma qui commence à être un peu usé, mais qui marche toujours. L'ascension dans la saison 1 et le déclin dans la saison 2. L'un de ses nombreux intérêts, hein, c'est de nous présenter un trafic de drogue mexicain qui n'est pas né avec El Chapo, qui n'est pas né avec Gallardo non plus, qui remonte à beaucoup plus loin. Et le trafic de drogue fait partie du paradigme mexicain. Il est nécessaire au fonctionnement politique et social de certains États, qu'ils soient d'ailleurs un frontalier évidemment, ou bien producteurs, si on va un petit peu plus vers le centre du Mexique. Donc contrairement aux deux premières saisons de Narcos, où on se concentrait sur le système Escobar, Narcos Mexico va nous montrer un trafic de drogue au Mexique qui entre dans un système de corruption complet, vraiment, hein, qui vérole la politique mexicaine à toutes les échelles. Et on voit ici Gallardo qui intervient, qui tire les ficelles à différents moments, mais c'est jamais le maître du jeu. C'est peut-être ce qui est ici... la grande différence avec les deux premières saisons qui se concentraient sur Escobar. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc pour les deux saisons, hein, donc la première saison, elle nous décrit Gallardo un peu comme l'homme qui amène une solution à l'ensemble des trafiquants. Il est originaire du Sinaloa et donc il fonde le cartel de Guadalajara qui va exister de 1978 à 1989. Il a une position qui est assez subtile puisqu'il connaît assez bien le monde du trafic de drogue. C'est un ancien policier, qu'il a des contacts dans la police. Il a aussi des contacts dans le monde politique. Et il offre une solution à tous les trafiquants de drogue. 3200 km de frontière avec les États-Unis. Au début, donc, le trafic de drogue mexicain repose essentiellement sur la marijuana. Et au fil des épisodes, il va donner une nouvelle ampleur au trafic, puisqu'il apporte une solution au cartel de Medellín. Donc il y a une connexion avec Escobar. C'est le moment en fait, où la Colombie a affaire à la DEA. Donc, ça devient très compliqué pour eux d'envoyer de la cocaïne sur les États-Unis. Et donc Gallardo apporte la solution. Et c'est lui qui va assurer le transport de la cocaïne bolivienne, péruvienne et colombienne vers les États-Unis.
Alors, quand on regarde, Anthony, il n'y a pas de souci, quand on regarde un petit peu ce Narcos Mexico, on se rend compte, d'après ce que vous nous dites, qu'il y a quand même là-dedans une certaine fascination de la fiction, donc de Netflix, on pourrait dire de Hollywood d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière avec le cinéma, à travers la caricature du trafiquant, par exemple. Donc, on est là sur un schéma fictionnel qui n'est pas nouveau, hein, en reprenant, on va dire, un certain nombre de films qui ont fait les beaux jours d'Hollywood.
Oui, en effet. Donc, si on suit un petit peu hein, les deux séries Narcos, hein, donc celui qui est concentré sur la Colombie et surtout Mexico, bon, bah, évidemment, on est sur quelque chose qui fonctionne. Il y a une fascination qui est réciproque entre Hollywood et la figure du trafiquant, qu'il soit fictif ou réel. Bon, si on commence par le trafiquant, qu'est-ce qu'il a à gagner? Bon, souvent, ce sont des personnages mégalomanes. On pourra le voir avec quel chapeau. L'intérêt d'Hollywood, il est évident. Ça marche. Évidemment, on pense tous au Parrain, on pense à Scarface, on pense à American Gangster. La plupart des grands réalisateurs sont passés à un moment ou à un autre par le trafiquant de drogue. Et aujourd'hui, cela se renforce avec les plateformes, notamment Netflix. Hein. C'est le support, bien sûr, de Narcos. Donc, ces films, séries et reportages témoignent d'une vraie fascination du grand public pour le respect imposé par Corleone, auquel les autres chefs viennent baiser la main, ou la capacité de Tony Montana à construire un empire en partant de rien. Et d'ailleurs, la frontière, elle est parfois extrêmement mince entre la réalité et la fiction. Quand El Chapo a été capturé, Sean Penn a été l'interviewé. Et Ridley Scott s'est positionné pour faire un film sur le roi de l'évasion. On parle quand même, hein, si on parle d'El Chapo, on parle d'un homme qui est à la tête d'une organisation, qui torture, qui tue, qui kidnappe. D'ailleurs, la violence n'est pas terminée avec sa capture, puisque un de ses fils a été arrêté à la fin de l'année 2019. Et ces hommes sont venus attaquer les forces de l'ordre à l'arme lourde. Donc, il y a une espèce de gouffre entre la vision quelque peu romantique qu'on nous donne d'un El Chapo à 138 de QI qui serait placé parmi les grandes fortunes mexicaines par Forbes et ses actes. Alors, la figure du parrain plus ou moins fantasmé, c'est évidemment beaucoup d'argent. La montagne de billets, parfois, vous savez, quand on casse les murs de la maison, etc., on va retrouver de l'argent liquide, de l'alcool, de la drogue, des femmes et bien sûr le respect qui est imposé envers tous ces trafiquants de drogue. Si on passe en revue hein, quelques éléments, on a évidemment l'ascension sociale. Donc l'ascension sociale, bon bah elle est représentée par Tony Montana, qui est parti de rien. Bon, c'est vrai que Scarface hein, s'est tenu quand même par l'interprétation remarquable d'Al Pacino, mais bon, on est quand même sur de la science-fiction, hein, notamment la scène finale qui se finit à la mitrailleuse. Il y a le baron de la drogue qui s'est enrichi et qui revient prendre soin de sa famille, ça on le voit dans American Gangster, avec Frank Lucas, donc Denzel Washington hein, qui interprète le personnage, une fois qu'il s'est enrichi, il revient, il achète une maison pour sa mère. C'est vrai que Narcos Mexico, c'est un petit peu le schéma inverse, c'est-à-dire la famille va prendre de la distance avec Gallardo. Donc ça c'est intéressant. Et enfin la violence. La violence, bon, bah, on a du mal à montrer la violence de ces groupes. Quand on regarde Scarface, bon, bah, c'est un film, c'est pas la réalité. Donc on a beaucoup, beaucoup de mal, dans la plupart des films, à retracer la violence des barons de la drogue.
Alors pourtant, Anthony, il y a quand même eu des films à Hollywood hein, qui retracent assez, j'allais dire, de façon assez proche la réalité de ce qu'a été le trafic de drogue. Je pense à Sicario, je pense à Sin Nombre. Ce sont des films quasiment documentaires.
Oui, c'est vrai que alors, ces films-là, notamment pour Gomorra et Sicario, sont quand même relativement connus, même s'ils n'ont pas connu le succès des films qu'on a évoqués précédemment. Sicario, c'est de Denis Villeneuve. Et bon, bah, on revient un petit peu sur le quotidien de ces tueurs à gages dans les cartels mexicains. Donc, ces films ont été salués par la critique, hein, bien sûr. Bon, ces Sicarios qui franchissent la frontière, bon, bah, eux-mêmes subissent de très, très fortes violences avant de les reproduire sur les victimes. Et donc, on a une espèce de réflexion. Est-ce qu'ils sont victimes? Est-ce qu'ils sont coupables? Et bon, c'est vrai que le film Sin Nombre, c'est peut-être le summum dans le panel que vous avez présenté, qui va nous décrire un petit peu le climat apocalyptique de la MS-13 à travers la traque d'un de leurs membres, depuis le Salvador et le Honduras jusqu'à la frontière.
Et donc, quand on regarde la série Netflix Narcos, on en est où? Est-ce qu'on est plutôt proche de ce qu'on vient de dire sur des réalisations qui sont très solides et qui sont très proches du documentaire? Ou est-ce qu'au contraire, on est parfois, quand on voit Gallardo, près de la caricature du trafiquant? Où est-ce que se situe Narcos Mexico?
Bon, on va faire une réponse qui plaira à tout le monde. On est entre les deux, évidemment. On a quand même affaire à. Si on prend le tout, ça nous fait 5 saisons à 10 ou 12 épisodes. C'est vrai qu'il faut quand même tenir le spectateur dans le temps. Donc, il va falloir céder à quelques poncifs. Si on prend Gallardo, comment est-ce qu'on nous le représente? Après, Escobar, évidemment, va nous représenter Gallardo un petit peu comme l'antithèse, une espèce de dandy de la drogue. On prend quelques clichés faciles. Par exemple, quand Don Nieto, c'est un des bras droits de Gallardo, est arrêté, il est arrêté dans sa villa de Puerto Vallarta, il est dans la piscine, entouré de femmes en bikini. On y cède à quelques moments. Mais quand même, on nous donne quelque chose qui est parfois proche de la réalité. C'est vrai que les deux premières saisons de Narcos étaient assez intéressantes. On voit Escobar, qui à plusieurs moments n'a plus d'argent, qui vit dans des endroits miteux, etc. Gallardo, c'est quand même un homme qui est abandonné par tout le monde au fur et à mesure, notamment sa famille, et qui est proche de l'ulcère. Il passe son temps à boire, il passe son temps à fumer, et surtout, il est seul. Et donc, on voit cette espèce d'étau qui est en train de se resserrer entre la pression des Colombiens, celle des autres trafiquants qui veulent gagner en indépendance, et celle des hommes politiques. Évidemment, c'est une série de 2020, donc les femmes ne peuvent plus être réduites au rôle de Michelle Pfeiffer, heureusement. Donc, on va voir des femmes qui parviennent à créer leur propre filière. Et bon, quand tout va mal pour lui, évidemment, il va se tourner et revenir vers sa femme.
Donc j'aimerais maintenant, Anthony, hein, vous l'avez commencé à l'évoquer à l'introduction, qu'on se concentre sur véritablement cette série Narcos Mexico en la contextualisant un petit peu et en montrant aux auditeurs quelle est la place aujourd'hui, vous l'avez dit économiquement, mais aussi même géopolitiquement, du trafic de drogue dans ce pays-là. Alors est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, resituer historiquement ce trafic, on va dire, jusqu'au début, jusqu'à l'ascension de Gallardo?
Oui, on peut dire qu'on peut partir du 19e, hein, on trouve des productions de marijuana et de pavot dans les États du Sinaloa, du Chihuahua, du Sonora. Les Mexicains consomment peu, et déjà au 19e, on a un réflexe d'exportation des deux drogues, hein, que ce soit la marijuana ou l'héroïne, vers les États-Unis, surtout après la guerre de 1846-1848, où il y a de nombreux territoires mexicains qui passent vers les États-Unis. Et bon, finalement, de toute façon, hein, on comprend l'histoire du trafic de drogue mexicain qu'en regardant ses rapports avec les États-Unis. Donc les États-Unis, en 1914, interdisent la consommation de pavot. Ils sont suivis par le Mexique en 1920, aussi bien pour la production que pour la consommation de la marijuana et du pavot. Donc on a une espèce de clé de lecture classique. Quand on a interdit une drogue, qu'est-ce qui se passe? Premier point, on développe le trafic. Et deuxième point, les prix augmentent. Et donc la politique états-unienne, elle est extrêmement intéressante, puisqu'on a tendance en fait à retenir que le volet répressif, la DEA, les politiques extrêmement agressives de Nixon, Reagan, Bush, c'est un petit peu plus compliqué. Si on prend le cas de Franklin Roosevelt, quand il est à la Maison-Blanche, dans la seconde partie des années 1930, le gouvernement fait pression sur le Mexique pour que s'arrête la production d'opium. Donc il y a une collaboration avec les autorités mexicaines pour y mettre un terme. On traverse quelques années, Seconde Guerre mondiale. La morphine qui est produite à partir de l'opium et qui venait d'Asie, on n'est plus approvisionné, alors qu'on en a fortement besoin pour soulager les soldats. Donc comme il n'y a plus de trafic maritime, plus de morphine. Donc là, Roosevelt se tourne vers le Mexique et relance la culture de la fleur de pavot pour l'utiliser à des fins pharmaceutiques. Et donc le Mexique va jouer ici un rôle capital en tant que producteur d'opium. Et pendant la guerre du Vietnam, pour vous dire, hein, le Mexique est le premier fournisseur de l'armée américaine. Donc vous avez ce marché légal, et à côté, évidemment, on a un marché clandestin qui se met en place. Et donc c'est sur cette brèche que vont se greffer les trafiquants de drogue dans les années 70-80. Et finalement, c'est tout le paradoxe, puisqu'au moment où Nixon arrive au pouvoir, et quand on parle de Nixon et de trafic de drogue, c'est à la répression qu'on pense, c'est là où la filière entre le Mexique et les États-Unis fonctionne de manière la plus efficace, où on a des grandes quantités de drogue qui arrivent. Autre élément très important avant l'arrivée de Gallardo, c'est la fin de la French Connection. la Fresh Connection, hein, où on appelait ça aussi la filière Corse, c'est plutôt un ensemble de filières où on fabrique de l'héroïne dans des laboratoires du sud de la France. Nixon a collaboré avec Pompidou, ils ont mis fin ensemble à cette filière, et bon, pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 80% de la consommation d'héroïne des États-Unis. Donc on a une espèce de conjonction entre les besoins de l'armée américaine, la fin de la French Connection, et une hausse de la consommation dans les années 70 pour des éléments culturels que nous verrons un petit peu plus tard.
Donc ce qui est intéressant aussi, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de voir dans cette série Narcos, les trois premières saisons sont consacrées à Escobar, donc qui est très connu, j'allais dire mondialement connu, et le spin-off Narcos Mexico qui est consacré à Gallardo, qui est peut-être un petit peu moins connu. Alors est-ce que ça serait peut-être pas le moment, Anthony, de nous faire une petite comparaison de ces deux parcours-là et de voir justement finalement quelle a été l'importance de Gallardo sur le Mexique?
Oui, alors c'est vrai que la comparaison, elle est intéressante. Et bon, c'est le mérite de la série. Ils n'ont pas cédé à la facilité, puisque évidemment, trafic de drogue, bah, Pablo Escobar est quand même profondément vendeur pour le cinéma. On aurait pu se concentrer sur Toto Riina en Sicile, qui a un parcours complètement apocalyptique, ou Guzman, hein, qui est très à la mode en ce moment. Et donc, bon, Gallardo, voilà, c'est l'homme des solutions. Il arrive dans un système ultra corrompu. C'est des soucis en moins pour les cartels. C'est un enrichissement pour les hommes politiques mexicains. Et pour les trafiquants de drogue mexicains, ça va permettre de faciliter l'exportation. Si on compare les deux hommes, bon, on ne va pas faire une différence-comparaison, un tableau, mais bon, première différence, évidemment, c'est le produit au départ. Gallardo, c'est de la marijuana, donc ça se vend relativement bien, mais ça rapporte de l'argent, mais pas autant que la cocaïne. Évidemment, hein, Escobar, tout repose sur la cocaïne, qui vient au début essentiellement de Pérou et de Bolivie, avant qu'on en fasse dans le sud de la Colombie. Donc, les deux, évidemment, vont avoir à faire face à la DEA. Et bon, au moment où il y a la répression qui se met en place en Amérique centrale et en Amérique du Sud, on a besoin d'hommes plus innovants, plus intelligents, plus rusés, plus déterminés aussi. Et c'est là que vont apparaître ces personnages d'Escobar et Gallardo qui prennent la tête des trafiquants de drogue, qui vont leur apporter différentes solutions. Généralement, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils exportent la drogue pour tous les autres trafiquants du pays et ils vont percevoir un pourcentage. Donc la répression va obliger les producteurs et les trafiquants à se cacher. Donc on a besoin vraiment, hein, d'une meilleure organisation. Et ces deux hommes, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, sur le côté violent, mais c'est ça aussi leur force, c'est qu'ils apportent une solution dans un contexte qui est extrêmement compliqué.
Et donc, ce contexte, justement, il est intéressant parce qu'on est dans un pays qui est assez troublé politiquement, un pays qui apparaît, pour nous, j'allais dire, européens, hyper violent. Qu'est-ce qu'il en est, d'après ce qu'on peut voir à travers la série, puis peut-être recontextualiser cette arrivée, j'allais dire, au pouvoir dans le cartel de Gallardo?
Oui, alors, bon, Gallardo, hein, encore une fois... Il va s'appuyer sur des liens qu'il va avoir dans le monde politique par le biais de la corruption. Donc à chaque fois qu'il franchit un seuil dans la quantité ou dans la forme de la drogue, etc., il est obligé de s'adresser à des autorités supérieures. Donc bon, on commence avec la marijuana, avec de la corruption locale. Et évidemment, quand il doit apporter une solution aux trafiquants de drogue colombiens, on parle de tonnes ici, hein. Ce sont des tonnes d'héroïne qui doivent passer de l'autre côté de la frontière. Il faut des hommes d'un niveau de corruption beaucoup plus élevé. Il faut qu'ils soient à Mexico et on ne peut plus corrompre quelques hommes à l'échelle locale. Donc c'est vraiment sur tout ce système de corruption qu'il arrive à se greffer. Et d'ailleurs, que retrace assez bien Narcos Mexico, plus il gagne d'argent, plus le système de corruption est complexe et plus il doit sortir d'argent pour satisfaire différentes personnes.
Oui, donc on voit, hein, c'est quelque chose qui est très entremêlé. On va y revenir sur ce poids de la corruption parce que je pense qu'effectivement cette série Narcos Mexico, c'est une bonne porte d'entrée pour aborder la complexité à la fois sociale et politique de ce pays qui peut apparaître troublé que le Mexique. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la violence et que vous me parliez d'un moment important qui est l'affaire Camarena.
Oui, mais alors c'est vrai que bon, quand on est dans la comparaison Gallardo-Escobar, on se dit que Escobar est beaucoup plus violent. C'est un petit peu plus compliqué, hein, évidemment. Bon, Escobar, il y a eu des meurtres d'hommes politiques. Donc bon, Gallardo paraît moins violent, mais c'est juste qu'il est un petit peu mieux contrôlé par les hommes politiques. La violence, elle est nécessaire. Donc on voit ici un homme qui est au courant de ce qui se passe, qui des fois va laisser faire les vengeances entre les trafiquants mexicains, et qui doit aussi utiliser la violence à certains moments pour pouvoir faire en sorte que son système fonctionne. On n'est quand même pas sur le système de Totorina en Sicile. On n'est pas sur un tel degré de violence dans le fonctionnement Gallardo. Attention, je ne parle pas à l'échelle locale. Donc, bon, plus le trafic augmente, plus les violences augmentent, et c'est surtout que la DEA va s'intéresser aux États-Unis. Et donc la première saison, elle est focalisée sur un duel entre Gallardo et un agent de la DEA, Enrique Camarena. Donc lui, son histoire, elle est complètement vraie. Gallardo a toujours nié, hein, à l'heure actuelle, il est en prison, il a toujours nié être responsable du meurtre. Mais dans la saison, on voit que bon, il est un petit peu contraint par les hommes politiques, mais il finit par assumer la décision. Donc bon, Camarena, il est surtout connu pour avoir fait tomber une exploitation de plusieurs centaines d'hectares de marijuana. Ils sont intervenus donc avec la police et les autorités mexicaines. Ils ont brûlé toute la production sur place et donc beaucoup d'hommes y ont perdu d'argent, y compris des hommes politiques. En février 1985, on retrouve son corps dans un état terrible. Il a été battu, il a été torturé. On voit aussi qu'on lui a injecté des drogues pour qu'il tienne la torture. L'autopsie montre que les côtes ont été brisées. Il a eu le visage écrasé. On lui a même percé un trou dans le crâne avec une perceuse. Donc, la violence est terrible et ce que nous montre la série, c'est qu'elle a été assumée par Gallardo. Et bon, ce qui est très intéressant, c'est fin de la saison 1, début de la saison 2, c'est la répression de la DEA qui va parvenir à arrêter tous les bras droits de Gallardo, comme Don Nieto, Rafa Quintero. Et bon, Gallardo tient, mais uniquement parce que les hommes politiques restent derrière lui pendant un certain temps.
Alors, ce qui est intéressant à travers Narcos Mexico, c'est aussi de parler, j'allais dire, d'un produit sur le plan géopolitique, c'est la drogue, qui est un produit, vous avez commencé à l'évoquer avec la French Connection, qui est un produit qui s'est mondialisé, on va dire, dans les années 60-70. Je crois qu'on est à peu près dans la série à ce moment-là de la mondialisation. Alors, ce qui serait intéressant, justement, c'est peut-être que ce qu'on fait pas ce qu'on fait pour d'autres produits en géopolitique, mais pas pour celui-là, c'est de comprendre, de faire comprendre comment on peut voir tout cela à travers la série. Alors j'aurais aimé, Anthony, que vous commenciez par parler de toute la chaîne de production, comment elle fonctionne et comment elle apparaît dans la série, c'est-à-dire j'allais dire à peu près comment est-ce qu'on passe d'un produit agricole jusqu'à la fin pour les grands revendeurs comme Gallardo, comment est-ce que l'argent est reblanchi?
Oui, en effet, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pourrait l'aborder, on le fera pas évidemment, mais on pourrait l'aborder comme un produit mondialisé, du style l'iPhone, le Levi's, le Nutella. Donc ici, alors, c'est bien le format série, c'est-à-dire on va s'attarder sur la production, on réfléchit à la qualité, etc. Les lieux, le climat, le savoir-faire, quels sont les marchés les plus intéressants sur lesquels il faudrait distribuer. Bon, la réponse, elle est vite donnée, hein, pour le Mexique, quand on a les États-Unis au nord, il y a toute cette réflexion qui est très intéressante. Et donc, on va partir du petit paysan qui va cultiver la fleur de pavot et on va aller jusqu'au blanchiment d'argent. Évidemment, la caractéristique par rapport à tout ce qu'on étudie dans nos classes, c'est qu'on a affaire à un produit interdit. Mais les barons de la drogue sont des chefs d'entreprise qui doivent réfléchir à ces différents facteurs. Autre caractéristique par rapport aux produits qu'on est habitué à étudier, évidemment, ce sont les profits généré, hein. Si vous prenez en 2009, Forbes avait fait d'El Chapo la 701e fortune mondiale. Donc la production, c'est le bas de l'échelle. Dans Narcos Mexico, on va nous le montrer à partir du personnage de Rafa Quintero, qui serait une sorte d'artiste de la marijuana, qui va réfléchir à la qualité du produit. Bon, évidemment, hein, c'est un petit peu. On y donne une forme un peu romancée. Mais peu importe le pays qu'on prend, évidemment, le paysan, c'est par lui que ça commence. Généralement, il gagne un petit peu plus d'argent, mais il n'a pas besoin de blanchir. C'est-à-dire, il roule pas sur l'or. Donc, il gagne un petit peu plus d'argent qu'avec d'autres cultures, et ça va lui servir à se nourrir, hein, la plupart du temps. Le Mexique, alors, produit de la marijuana, de la résine de cannabis et de l'héroïne. Et vraiment, ainsi, le trafic de cocaïne, ça vient d'Amérique du Sud. Donc, la fleur de pavot et la cocaïne ont besoin d'une autre étape par le biais des laboratoires. C'est là où on va faire la transformation. vous avez le paysan, le laboratoire où on transforme. Et là où Gallardo apporte encore une fois un plus, c'est le blanchiment. Le blanchiment d'argent, donc on le voit avec Pablo Escobar, on va passer par un système de laverie, de restaurant. Gallardo, c'est beaucoup plus simple. Il est dans un comité d'administration de banques mexicaines. Donc l'argent va être blanchi par le biais des banques mexicaines. Et là, c'est que ça fait quand même une bonne différence avec Escobar au début, bien sûr.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, hein, je le disais, la conjonction avec la conjoncture économique et culturelle de cette série, puisque on est dans les années 70, à un moment où la drogue devient un phénomène, j'allais dire, important. On a en tête des images de hippies, de Woodstock ou comme ça. Donc, on est dans ce contexte-là. Il y a une demande. Alors, comment est-ce que fonctionne la distribution et qui sont les consommateurs?
Oui, donc en effet, il n'y a pas de production sans consommation. Donc si on produit beaucoup, c'est qu'on consomme fortement et on consomme fortement sur le marché américain. Et c'est vrai que quand on voit la montée de la consommation de la cocaïne, c'est la drogue de la jet set nord-américaine, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et c'est ce que nous montre très bien l'ensemble des séries Narcos, c'est à quel point la cocaïne va leur permettre de s'enrichir. Donc elle est produite en Bolivie, au Pérou, puis en Colombie. Elle remonte la cordillère des Andes vers les États-Unis. Et comme vous le dites, la conjonction avec un phénomène culturel, avec le mouvement hippie, avec les manifestations étudiantes, les concerts Woodstock, les années 70, hein, c'est vraiment le moment aussi où on essaye de sensibiliser par rapport à cette drogue. Dans un article de Paris Match sur le LSD, on a l'écrivain Jean Co qui disait en 1969, « Parents, attention, le fléau arrive chez vous. Héroïne, morphine, cannabis, hallucinogènes ont établi partout leur règne hideux. De là, le monstre a bandi en Grande-Bretagne et en Suède. Depuis 2 ans, il a posé quelques tentacules sur la France. » Donc on le voit à travers ses propos, hein, on a des autorités qui essayent de sensibiliser l'opinion publique. Attention, la drogue est dangereuse. On a même le débat sur la dépénalisation des drogues dites douces. Alors la France de Pompidou va faire le choix de la fermeté, mais aux Pays-Bas, en Italie, s'ouvre tout doucement la voie de la dépénalisation. Nixon aussi avait eu cette formule un petit peu choc en 1971, la toxicomanie comme ennemi public numéro 1. Et donc, ce qu'il faut vraiment voir ici dans les années 70, c'est qu'on a plus de production parce que la consommation augmente fortement. Et tout à l'heure, hein, on parlait de la fermeture de la French Connection, c'est pour ça qu'on va basculer vers l'Amérique latine pour se fournir.
Alors, ce qui est intéressant aussi de voir ça, quand on étudie un produit, donc même si c'est un produit illicite ici, c'est d'étudier le transport. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à travers la série, notamment du passage du Mexique vers les États-Unis, à travers cette frontière qui aujourd'hui a tendance à de plus en plus se fermer, on pense au mur de Trump, mais comment ça se passait déjà à l'époque pour inonder le marché nord-américain avec ces drogues en provenance d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud?
Oui, alors finalement, le transport au début est extrêmement facile. Alors, ça, on va le voir surtout dans les 3 premières saisons, plutôt les 2 premières, d'accord, d'ailleurs, dans le système Escobar, c'est-à-dire, il suffit d'une flotte d'avions et on amène la drogue, en particulier vers Miami. C'est le gros lieu d'écoulement pour la filière colombienne. Mais quand la DEA commence à s'attaquer à Escobar, surtout qu'ici, hein, la DEA, dans la lutte contre Escobar, elle bénéficie d'un soutien des autorités politiques parfois. Donc c'est un petit peu plus facile pour elle, et à un moment, Escobar ne peut plus. Et c'est-à-dire, en fait, les pertes sont trop élevées, et il ne gagne plus assez d'argent. Donc du coup, on va chercher d'autres voies. Et c'est là que le Mexique apporte la solution. Comme vous l'avez dit, hein, on nous parle de murs, etc., mais 3200 km de frontières. Ça laisse quand même de nombreuses opportunités. Et donc, quand Gallardo, hein, arrive, fin des années 70, années 80, la frontière est très facile à passer. Et donc, on va la passer par le biais des avions. Donc ici, c'est Amado Carrillo Fuentes qui s'occupe de ça. Il a une flotte d'avions qui va transporter la cocaïne des cartels colombiens, puisque là, on parle de tonnes. Sinon, on a une circulation quotidienne par le biais des automobiles, par le biais des femmes mexicaines, de certaines qui vont travailler chaque jour de l'autre côté de la frontière. Elles amènent quelques centaines de grammes, 1 kilo, dans le sac à main, chaque jour. Et évidemment, bien sûr, on ne peut pas parler de transport de la drogue entre le Mexique et les États-Unis sans parler des narcotuneles, hein, qui sont incarnés par El Chapo dans la série, puisque El Chapo, on le voit apparaître dès la saison 1. C'était pas vraiment un bras droit, mais c'était un homme qui était dans le cartel de Guadalajara. Et on va voir un petit peu d'ailleurs son ascension dans les deux saisons, hein, ce qui nous ferait une formidable saison 3 ou saison 4 autour de ce personnage. Bon, ben, on voit qu'il a acheté deux bâtiments de chaque côté de la frontière. Et aujourd'hui, hein, suffit de taper narco-tunnel sur un moteur de recherche. Généralement, ils font 500 mètres de longueur. Ils passent sous la frontière. Vous avez des rails, de l'électricité, des ascenseurs. Et là, on va passer de la drogue en très, très grosse quantité. Et donc, l'imagination des narcos, ce qu'on voit très bien dans la série, c'est qu'elle est sans limite pour passer la drogue de l'autre côté. Et en tout cas, pour les Mexicains, ça semble pas compliqué dans la série.
Alors justement, ce qui est intéressant dans Narcos Mexico, c'est d'appréhender, je le disais tout à l'heure, la réalité de ce pays assez complexe au niveau politique, mais aussi au niveau social qu'est le Mexique. Alors c'est vrai que c'est un pays touristique, je pense au site Maya, je pense aux plages de Cancun, mais il y a l'autre côté, j'allais dire le côté obscur du pays, qui est celui, par exemple, d'un pays très marqué par la corruption, et ça, Narcos Mexico le met très bien en avant.
Oui, alors c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu dommage en fait que depuis l'Occident, on ait la vision d'un pays où on risque juste de se faire kidnapper ou assassiner. C'est beaucoup plus complet. Vous avez parlé du tourisme, on est quand même sur un pays qui est extrêmement grand. Hein. Quand on va dans le sud, vers le Chiapas, etc., bon, on a des zones extrêmement touristiques, on a la côte pacifique, la côte atlantique, qui sont complètement différentes. Mais au-delà de la violence, c'est vrai que c'est la corruption qui va empoisonner la société mexicaine. Et on peut dire que le Mexique est un narco-État. Ce ne sont pas quelques cas isolés, mais c'est vraiment un système. Et en fait, Gallardo, quand il est lâché par les autorités mexicaines, c'est là qu'il se fait capturer. Donc la corruption, c'est vraiment à toutes les échelles. Ce qui explique aussi que la confiance, elle est complètement rompue, si on quitte la série, hein, entre la population et l'État depuis un certain moment. Et on ne sait pas comment faire contre les trafiquants de drogue. Donc pendant longtemps, ce qu'on voit dans la saison 2 de Narcos, c'est qu'il y avait une entente. Il y a une entente notamment avec le PRI. Ça a longtemps été une sorte de parti unique au Mexique. Gallardo va aider à l'élection du candidat pour la présidentielle. Donc il y avait une espèce d'entente. Le Mexique repose sur le clientélisme. Si on veut la paix, il faut que chaque clientèle ait de l'argent et des fonctions politiques. Et ça, c'est malheureusement, hein, c'est la triste réalité. Donc on espère pacifier les rapports sociaux si tout le monde a une part du gâteau sur les hommes dominants. En 2007, on change complètement de registre quand Vicente Fox et Philippe Calderón sont devenus présidents. Eux, ils ont déclaré la guerre sans merci. Bah, la violence a augmenté. C'est-à-dire sans la corruption, il y avait toujours un peu de corruption évidemment, mais la violence a augmenté. Et c'est ce qu'on voit dans l'assassinat de Camarena. Camarena, les hommes politiques, l'armée, etc., certains hommes sont responsables de sa mort. Autre chose, dans les années 1990, en fait, on assiste à une décentralisation. C'est aussi pour ça que l'ère des barons est terminée. Gallardo, c'est plus possible. Il va falloir des barons régionaux, comme Guzman, etc., même si plus tard, il unifiera les différentes filières. C'est-à-dire, la corruption, elle va plus se faire au niveau national, elle va se faire au niveau régional. On le voit très bien en 2014 avec l'affaire des étudiants d'Iguala. Donc, c'est 43 étudiants qui avaient été tués par un cartel, mais dans des conditions absolument atroces. Alors que le maire et son épouse avaient fui la ville avec des mallettes remplies d'argent. Donc on a une corruption qui est tombée à l'échelle locale. El Chapo, lors de son procès à New York, il a accusé Peña Nieto, donc Peña Nieto c'était le dernier président, et également Felipe Calderón, d'avoir touché des centaines de millions de dollars de pots de vin. Et bon bah malheureusement, il a probablement pas tort. Et donc son cas est absolument emblématique, hein, pour El Chapo.
Oui, alors ce qui est vraiment assez intéressant ici, de voir aussi, vous l'avez dit, c'est l'importance sociale de la drogue, alors non pas en tant que ici consommation, mais en tant que production ou en tant que transport. Vous l'avez dit, hein, beaucoup de Mexicains y ont une vraie source de revenus qui leur permet de vivre, de survivre d'ailleurs. Sans la drogue, le pays serait sans doute beaucoup plus livré à la pauvreté. Alors il ne s'agit pas ici de défendre la drogue, mais de faire un constat, et un constat que l'on appréhende très très bien quand on regarde Narcos Mexico.
Oui, c'est vrai que quand on regarde, bon, bah, finalement, ces petits paysans qui vont gagner un petit peu plus d'argent en cultivant de la marijuana ou surtout bien sûr du pavot que divers fruits et légumes pour pouvoir s'enrichir, c'est vrai qu'on le voit assez bien à travers la série. Autre chose, hein, les trafiquants de drogue, Ça avait été très bien montré avec Escobar à Medellín. Pourquoi est-ce qu'Escobar est autant défendu? C'est parce qu'il a une œuvre sociale pour Medellín. Donc bon, on ne le voit pas du tout avec Gallardo, mais El Chapo, c'est vrai que dans son état, bah, il donne de l'argent, il aide. On le voit d'ailleurs très bien depuis un mois, sa fille, par le biais du coronavirus. Donc le Mexique, les autorités mexicaines ont complètement abandonné la population face au virus. Bon, bah, on a la fille d'El Chapo qui va distribuer des cartons avec des produits de première nécessité. Et sur le carton, donc, vous avez ce portrait de son père et la marque, hein, elle a déposé une marque, El Chapo 701, parce que justement, on l'avait dit, hein, Forbes l'avait classé 701e fortune mondiale. Donc, il y a une telle défiance vis-à-vis du politique que bon, les trafiquants de drogue peuvent être un recours momentané. Mais évidemment, hein, il y a un système de racket qui est en place à l'échelle locale. Rien n'est gratuit. Et donc, bon, le Mexique a beau être un producteur de pétrole, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ses perspectives économiques sont relativement restreintes. Et donc, bon, bah, les trafiquants de drogue peuvent se greffer sur cette brèche.
Oui, donc c'est ça qui est relativement intéressant ici, c'est d'appréhender cette série qui est une série, vous l'avez dit au début, fictionnelle, qui n'est pas documentaire, mais qui a été par les showrunners très bien documentée. Et donc ça permet de voir un petit peu l'autre côté de ce Mexique, loin des cartes postales, sur un Mexique plus réel où vous avez dit, effectivement, on risque, quand on est y compris un touriste, en tout cas un occidental, forcément dans certaines régions, comme celle de Guadalajara, qui est ici le théâtre de Narcos Mexico de se faire enlever. C'est assez complexe et c'est un pays qui a une complexité sociale et politique que l'on appréhende très bien dans la série. Ben Anthony, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour la présentation de Narcos Mexico. J'espère que les auditeurs auront envie d'aller découvrir ou redécouvrir cette série disponible sur la plateforme Netflix. Anthony, merci et à bientôt.
Merci beaucoup, Nicolas.
Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.